Le journal présenté par Chipe Lamondo.
En Ituri, deux ex-miliciens condamnés à la prison à perpétuité, ils étaient accusés d'avoir assassiné deux observateurs militaires de la MONUC en 2003. Au Kasaï occidental, les yeux sont tournés vers la Cour suprême de justice pour savoir si Trésor Kapoukou va ou non retrouver son fauteuil de gouverneur de province. Trois différents dossiers qui opposent ces derniers à l'Assemblée provinciale sont sur la table de la SCJ. Qui accorde l'autorisation de bâtir aux particuliers? La question est d'actualité depuis la démolition du site Tembe-Natembe. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, qui vient de suspendre son secrétaire général, veut voir dans ces dossiers. Mesdames et messieurs, bonjour. En province orientale, district de l'Ituri, deux ex-combattants du FNI condamnés à la servitude pénale à perpétuité par la cour militaire de Kisangani, siégeant en chambre foraine à Bunia. Ces ex-miliciens étaient poursuivis pour l'assassinat des deux observateurs militaires de la MONUC en mai 2003. Les faits se sont déroulés à Mongwalou, cité située à environ 80 km au nord de Bunia. Des détails avec Isaac Remoyope.
C'est la même peine qui avait été prononcée au premier degré du jugement. Une semaine plus tôt, la cour avait déclaré irrécevable l'appel interjeté par trois de leurs complices. La MONUC ne cache pas sa satisfaction face à l'arrêt rendu par la cour. Manon Djemounoubaï, porte-parole de la MONUC en Ituri.
Au niveau de la MONUC, c'est une satisfaction de voir que la justice a fait son travail. Satisfaction de voir que les assassins de nos collègues n'ont pas bénéficié de l'impunité et que jugés par une cour justice du pays, condamnés, et c'est un sujet de satisfaction pour nous.
La défense, quant à elle, qualifie la décision de la cour comme sévère. Maître Akonga Sadiki promet de poursuivre les dossiers à la haute cour militaire à Kinshasa.
Je déplore un peu parce que la cour militaire a été trop sévère. Vous savez, c'était pendant la rébellion. Il y avait des éléments incontrôlés, il y avait des armes qui circulaient par-ci, par-là. C'est pratiquement impossible de savoir qui a tué les deux Onusiens.
Dans les prochains jours, nous allons comparer encore la haute cour pour les cinq prévenus.
Les cinq ex-miliciens condamnés dans cette affaire sont détenus à Bunia dans une base militaire de la MONUC. Bunia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Au nord de vous, 10 personnes ont été assassinées durant la dernière quinzaine du mois de juin dans les secteurs de Kisharo-Bouma, à 100 km au nord de Goma. Des sources administratives, policières et médicales renseignent que ces personnes ont été tuées par la population qui les accusait de collaborer avec les FDLR. Selon les sources administratives du territoire de Rutshuru, plus de 5 villages dans cette zone se sont vidés de leurs habitants qui ont trouvé refuge vers Kiwanja. Des détails avec vous, Bernardin Nyangi.
Assassinats et vols deviennent courants chez nous, disent les habitants de cette zone. En 15 jours, ce ne sont pas moins de 10 personnes qui se sont fait tuer à l'armée blanche par la population. Selon les sources administratives et policières, ces habitants ont voulu régler les comptes de ces personnes qu'ils soupçonnaient de collaborer avec les FDLR. Cet événement est la conséquence d'attaques et de pillages répétés d'hommes en armes à l'encontre de la population et qui amplifie les déplacements des populations. Selon le coordinateur de la commission des urgences pour les déplacés de Rutshuru, 4 800 familles déplacées ont été enregistrées jeudi. Selon lui, en moins d'une semaine, le nombre de déplacés dans le camp de Nyongera Kiwanja vient de passer de 850 à plus de 1200 familles. Les autres sont pour l'instant dans des familles d'accueil et d'autres disséminées dans différents camps de déplacés sur le même axe. Goma, Bernard Benyangi, Radio Okapi.
Restons dans cette province pour parler de la libération conditionnelle intervenue hier vendredi à la prison centrale de Goma, une libération ordonnée par le ministère de la Justice congolais et exécutée par sa vice-ministre qui séjourne dans la ville. La majorité des condamnés qui ont bénéficié de cette remise de peine avaient déjà purgé un quart de leur peine et ont été libérés pour bonne conduite. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement qui vise à désengorger les prisons de la RDC. On écoute Madame Odia Kalinda, vice-ministre de la Justice, au micro de Moïse Mutunga.
Compte tenu des priorités du gouvernement, le ministère de la Justice est en train de s'employer pour procéder à ces libérations conditionnelles afin de désengorger beaucoup de prisons à travers le pays. Bien entendu que les conditions sont réelles. Ces conditions sont fixées par la loi. Il faut réaliser l'écart de peine. Ensuite, il faut s'amender. Au niveau de la prison, il y a une administration. Pour ce qui concerne l'amendement, cela est étudié en commission et c'est cette commission-là qui apprécie et qui nous communique si ces détenus-là se sont effectivement amendés.
La vice-ministre de la Justice que vous venez d'écouter a profité de l'occasion pour remettre aux détenus de Mounzenze un don du gouvernement constitué de vivres et des médicaments.
Ensuite, qui voit Ouvira, un journaliste de la radio Les Messagers du Peuple, a été menacé jeudi d'emprisonnement et de mort par un responsable de la Direction générale des migrations. Selon le directeur de cette radio, son rédacteur en chef, Dominique Calonzo, a rendu un reportage sur des médicaments vendus par le responsable de la zone de santé d'Ouvira, médicaments destinés à la localité des Makobola. L'information n'aurait pas plu au responsable de la zone de santé et à son collègue de la DGN, le directeur de la radio, le messager du peuple, Moutéré Kifara, est au micro de Didas Namujimbo.
Ça fait la quatrième menace que nous venons d'enregistrer. Le dernier cas en date, c'est celui du problème de détournement, parce qu'en zone de santé, il y avait un problème de détournement des lots de médicaments octroyés par une ONG européenne, ADRA. La population de Makobola qui était bénéficiaire de ces dons ont fait des investigations, ont trouvé qu'il y avait détournement de l'air bien. Ils nous ont venu nous contacter, nous avons fait aussi des investigations. On a dénoncé ça. C'est Peter qui avait eu éclaircissement sur cette vente. Les responsables même de la DGM est venu me voir, moi personnellement, me dit que Dominique serait arrêté ou même disparu s'il ne fait pas gaffe. Et Dominique est en train de dénoncer les faits qui ne sont pas diffusés à la population. Ça fera du mal à ce service-là. J'en sais pas au niveau de la radio, mais nous ne sommes pas déçus, nous allons continuer à travailler.
Moutéré Kifara, directeur de la radio, le messager du peuple, contacté les responsables de la zone de santé, tout comme celui de la Direction générale des migrations à Ouvira, ni les faits. Ils reconnaissent tout de même avoir conseillé aux journalistes de faire preuve de plus de professionnalisme dans les traitements de l'information, sans rien ajouter. À noter que la radio, le messager du peuple, a informé l'ONG Journaliste en danger, GED, des menaces dont elle est victime depuis plusieurs mois de la part de certaines personnes. Puisque nous parlons des hommes des médias, sachez qu'une quarantaine de journalistes venus de 16 pays d'Afrique, dont la RDC, participent depuis hier dans la capitale chinoise à un séminaire de 10 jours sous l'égide du ministère des Affaires étrangères chinois. Ce séminaire est organisé par l'Institut de diplomatie, une grande école qui forme la quasi-totalité des diplomates chinois envoyés à l'étranger. Le but poursuivi par les autorités chinoises en organisant un tel rendez-vous est d'asseoir, entre autres, l'idée selon laquelle la République populaire de Chine est devenue une grande puissance économique sur le plan mondial. Pékin tient à le faire savoir aux Africains. Léonard Moulamba Kalala nous appelle depuis Pékin.
Pour permettre à ces journalistes de mieux comprendre la Chine actuelle, les autorités chinoises ont prévu au programme de ce séminaire une série de conférences et de visites en province. Pays attiré il y a seulement une trentaine d'années, la Chine a fait des progrès spectaculaires sur le plan économique. On suivait tous les orateurs à l'ouverture de ce séminaire. Cette croissance économique est le résultat de la politique d'ouverture et des réformes promises par Deng Xiaoping, ancien numéro 1 chinois, a déclaré le directeur de l'Institut chinois de diplomatie. C'est en mettant fin à la fermeture que la Chine réalise chaque année depuis 2000 un taux de croissance de plus de 7%. Il y a seulement 30 ans, l'apport du secteur privé dans l'économie chinoise était de 0%. Aujourd'hui, 50% des richesses de ce pays sont produites par le secteur privé. Pékin s'est lancé un défi, celui de donner à chaque Chinois d'ici l'an 2050 un niveau de vie égal à celui d'un citoyen des pays industrialisés comme la France. Numéro 2 de ce même institut a annoncé que pour partager son expérience avec l'Afrique, la Chine va former pendant les 3 prochaines années 5000 personnalités africaines au niveau. La Chine, je reviens. Depuis Pékin, Léonard Moulamba, Radio France.
Au Kasaï occidental, la Cour suprême de justice dispose de présentement de 3 différents dossiers de cette province à examiner autour de l'affaire gouvernance aux Okapuku contre l'Assemblée provinciale. Ces dossiers font suite à l'adoption par l'Assemblée provinciale d'une motion de défiance à l'endroit du gouverneur, une situation qui n'augure pas une issue rapide du dossier. Depuis Kananga, Marie-Chantal Lumba pour les détails.
Le premier dossier est celui envoyé par la Cour d'appel de Kananga pour avis. Question de savoir s'il y a eu violation de la Constitution dans l'affaire gouverneur Trésor Kapuku contre l'Assemblée provinciale. Un dossier qui, selon l'un des greffiers du greffe principal de la Cour suprême de justice, se trouve entre les mains de la Cour qui va statuer. Et cette dernière aura d'abord à désigner un rapporteur pour examiner le dossier, ensuite convoquer une plénière qui débouchera sur un prononcé. Ce prononcé sera transféré à la Cour d'appel de Kananga qui tranchera l'affaire. Entre-temps, un autre dossier, Assemblée provinciale contre l'arrêt de la Cour d'appel de Kananga, est également déposé à la Cour suprême de justice. L'Assemblée provinciale de Kananga s'insurge contre cet arrêt qu'elle juge inadéquat à la situation. Le troisième dossier est celui du gouverneur Trésor Tapoukou contre l'Assemblée provinciale. Selon ses avocats, ils avaient introduit leur requête au même moment qu'il avait fait à la cour d'appel de Kananga. Requête autour du vice de procédure constaté par la partie lésée lors de l'adoption de la motion de défiance. Selon les hommes de loi, les verdicts de ces trois dossiers ont une incidence sur la question de savoir si Trésor Tapoukou demeurera ou pas gouverneur de province. Et la procédure judiciaire peut prendre 30 jours. Ceci ajoute un mois de plus que la province sera gérée par un intérimaire qui assure les affaires courantes. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Kapi.
L'opération des démolitions de constructions anarchiques s'est poursuivie à Kinshasa. Hier, c'était des constructions situées dans la commune de Bandalungwa sous les câbles haute tension de la SNEL et au site Tembe Natembe. Ces samedis, c'est autour notamment des constructions avoisinant les bâtiments de l'IM, l'ancien institut médical, en face de la cathédrale du centenaire protestant. L'information a du reste été livrée hier à Radio Kapi par le coordonnateur de la brigade de démolition de l'hôtel des villes. On apprend que ce matin déjà, cette zone est bouclée par les forces de l'ordre. En rapport avec ces dossiers, le ministre de l'Urbanisme et Habitat déclare avoir suspendu son secrétaire général. Il serait impliqué dans la délivrance des forces d'autorisation des bâtir. Il faut dire que ce n'est pas la première fois qu'ils en détruisent des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa. Qui est habilité à accorder l'autorisation de bâtir et quelles sont les mesures prises par les ministères face à ces problèmes? Réponse de Laurent Simon Ikenge, ministre de l'Urbanisme et Habitat, au micro de Babel Mpongo.
En ce qui concerne les autorisations de bâtir, la loi dispose qu'il n'y a que le ministre qui peut donner les autorisations pour la construction à étage, pour le gouvernement de province ou le gouvernement de la ville, pour les maisons bâties. Ces gens-là ont des fausses autorisations de bâtir. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat n'a pas signé, ni mon prédécesseur, ni moi-même. J'ai institué une commission d'enquête pour savoir qui a donné le papier, qu'il s'agissait du secrétaire général. Je l'ai suspendu et mis à la disposition de la fonction publique. Tout celui qui aura trempé dans ce dossier aura la sanction de l'autorité. Vous savez, les dépenses sont énormes pour ceux qui ont construit là.
Laurent Simon Ikenge, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Restons dans la capitale pour signaler ce mouvement de grève déclenché depuis hier matin à la Direction générale des impôts, à l'OFIDA et aux autres régies financières de l'État. Selon le président de la délégation syndicale, les travailleurs revendiquent le paiement des arriérés des rétrocessions mensuelles d'avril et mai 2007, ainsi que celui du dernier trimestre de l'année dernière. Ils promettent de maintenir leur mouvement de grève jusqu'à ce que les ministres des Finances leur donnent une suite favorable. Rendons-nous à présent à Katanga pour parler santé. Dans la partie nord de cette province, les médecins chefs des zones de santé des Congolos appellent à l'aide pour les victimes de la rage. La semaine dernière, une femme du quartier Kandolo est morte après avoir été mordue un mois plus tôt par un chien enragé. Une dizaine d'autres victimes de morsures manquent d'assistance médicale. L'administrateur des territoires interdit la divagation des chiens et autres chats. Ces autorités se disent inquiètes du nombre de victimes de la rage. François-Xavier Mibé nous en dit plus.
Le nombre de victimes motive l'appel que lancent les médecins chefs des zones de santé. Un chien enragé a mordu 17 personnes avant d'être abattu par la population. Toutes ces victimes n'ont bénéficié jusque-là d'aucune intervention médicale. Une situation qui inquiète à haut niveau la zone de santé des Congolos, dépourvue de médicaments appropriés. Le docteur Patrick Thierry.
C'est vraiment une urgence pour nous, pour avoir ces vaccins-là. Nous sommes en danger. Le chien a été mort, il a mordu d'autres chiens, c'est sûr. Demain après-demain, on peut se trouver une situation où peut-être ce sera trop tard pour qu'on fasse quelque chose.
L'administrateur de territoire, Miquel Nounakoumi, arrête pour sa part une série de mesures pour protéger les habitants. Désormais, toute divagation des chiens et chats n'est pas tolérée sur la voie publique et à travers tout le territoire des Congolos. Le transfert et la circulation de ces bêtes sont aussi interdits. À ce sujet, le service vétérinaire est instruit pour attester la vaccination de tout animal transféré. À cet effet, la police a reçu même l'ordre d'abattre tout animal en divagation sur les places publiques. Des Congolos, François Dabemibé, Radio Kapi.
Avant de terminer, sachez qu'au Congo-Brazzaville, le gouvernement a décidé d'organiser le 8 et 15 juillet des élections législatives partielles dans 19 circonscriptions du pays, où le scrutin du premier tour n'a pu se dérouler normalement le 24 juin. Ce premier tour de rattrapage se déroulera dans les circonscriptions des départements de Niari, des plateaux de la Cuvette et de la Cuvette Ouest. Les électeurs concernés du département du Kwilu ne révoteront eux que le 15 juillet, tout comme ceux de Brazzaville et de la capitale économique Pointe-Noire. Ces deux agglomérations
accueillant du 7 au 14 juillet la 6e édition du Festival panafricain des musiques FESPAM.